Je vous remercie de votre présence qui constitue toujours un encouragement à continuer la transmission de la psychanalyse. Je suis par ailleurs didacticienne analytique et j'ai créé, il y a plusieurs années maintenant, dans le Vaucluse et sur Avignon en particulier, l'Institut français de psychanalyse appliquée, dans lequel je forme des psychanalystes. C'est au sein de cet établissement qu'est venue l'idée de créer une revue de psychanalyse tout public, donc Psychanalyse Magazine. Et l'équipe de Psychanalyse Magazine étant soucieuse d'un lectorat de qualité, nous avons pris la décision, il y a plusieurs mois maintenant, donc, de démarrer des cycles de conférences et d'ateliers-conférences. Donc il est bien évident que c'est pour ça que nous sommes réunis aujourd'hui sur un sujet sensible, on s'en est déjà rendu compte tout à l'heure, qui peut affecter facilement, à savoir l'abandon. Je vous signale donc les autres manifestations qui vont avoir lieu en 2002, organisées notamment par Psychanalyse Magazine, ou lorsque Psychanalyse Magazine sera présent. D'abord le 6 juin sur Paris, le thème abordé sera l'IVG. Ensuite le 14 novembre sur Marseille, l'abandon. L'adoption. 28 et 29 novembre... 28 et 29 novembre sur Paris. Alors si Laurence me souffle, je ne suis pas sortie de l'auberge là. 28 et 29 novembre donc sur Paris pour la deuxième année consécutive, le Salon du Livre Psy qui accueille des auteurs et des éditeurs de renom. L'entrée est gratuite et permet d'assister donc pendant ces deux jours à beaucoup d'ateliers-conférences. Pour ma part, si cela vous intéresse, j'interviendrai les 1er et 2 juin dans le cadre de la formation Michel Freud à Fréjus autour de cas cliniques. Donc il y aura aussi des cours, donc bien sûr des travaux pratiques, des ateliers, etc. Enfin, Psychanalyse Magazine sera présent dans le salon Rentrée Zen au mois d'octobre. Et pour ma part, j'interviendrai le dimanche 13 octobre sur un sujet aussi difficile, à savoir... les résistances au pardon. Alors si vous avez besoin d'informations complémentaires, bon, il est bien évident que tout au long de la journée, nous sommes à votre disposition. Donc, lorsque l'on m'a proposé d'aborder le sujet, la psychanalyse à l'écoute de l'abandon, indépendamment de la difficulté dont tout le monde est conscient, bien sûr, je me suis interrogée quant à l'étymologie du terme « abandon ». Et j'ai été à la fois surprise que ce terme véhicule une notion de pouvoir et à la fois peu étonnée dans la mesure où si on réfléchit à la triangulation freudienne célèbre qui a été introduite d'ailleurs tout à l'heure par Xavier Santoni, à savoir angoisse du temps, c'est-à-dire angoisse de mort, névrose d'abandon, névrose d'échec, et bien on se rend compte effectivement qu'il y a là du rapport dominant-dominé. Il y a bien sûr donc des complexes de supériorité qui cachent des complexes d'infériorité. Il y a de la toute-puissance. Donc effectivement, pouvoir et abandon, à ce moment-là, deviennent un couple infernal. Alors je me suis dit que je devais bien avoir dans mes observations le souvenir effectivement d'un cas clinique qui pourrait illustrer cette espèce donc de rapport difficile, de rapport d'opposition. Et j'ai été renvoyée à Mélanie. Alors, Mélanie m'avait été envoyée par son institutrice alors qu'elle était au cours préparatoire et qu'elle y rencontrait des difficultés d'apprentissage de la lecture à type de dyslexie. Lorsqu'elle est venue en entretien préliminaire, elle était accompagnée de sa maman et elle tenait à sa main son livre de lecture. De façon très symbolique, j'ai ouvert le livre de lecture à la première page. Et mon attention a été attirée par deux dessins, puisque l'histoire était développée donc sur deux pages. Sur la page de gauche, il y avait une maman éléphant et son éléphanteau, et on pouvait imaginer que tous les deux gambadaient joyeusement. Le titre de l'histoire disait que l'éléphanteau se prénommait Babar. Et sur la page de droite, on voyait la maman éléphant couchée sur le sol, inerte, tuée par deux vilains chasseurs sous le regard impuissant de Babar. Vous verrez combien le terme donc, d'impuissance est important et est à retenir d'ores et déjà donc, dans la construction de l'identité abandonnique. Alors, je me suis donc rapidement intéressée à cette lecture et effectivement, les illustrations reproduisaient assez fidèlement donc ce que l'auteur avait voulu raconter, à savoir donc une maman éléphant très gentille, le texte le soulignait, qui donc s'occupait très bien de son éléphanteau. Le texte avançait et on retrouvait effectivement les deux prédateurs, donc les vilains, qui tuait la maman. Et puis, partant de là, il y avait une troisième partie, c'est-à-dire que on imaginait Babar errant pendant des heures et des heures jusqu'au moment où il découvrait l'inconnu, c'est-à-dire la ville, avec tout ce qu'elle pouvait représenter de phobogène pour lui, en ce qui concernait bien sûr le bruit, les gaz d'échappement, la circulation, etc., etc. Alors, il est bien évident que si l'enfant ne présente pas de fixation abandonnique, et je reviendrai sur ce terme tout à l'heure, une lecture de cet ordre-là en première intention ne va provoquer aucune problématique, aucune résistance, dit-on en analyse. Par contre, si l'enfant est abandonnique, il y aura problème. Alors, il n'est pas question de remettre en cause ni les illustrations dans ces cas-là, ni le contenu du texte, parce que, bon, il faut être réaliste, la vie est une jungle, mais ce qu'il est important aussi de retenir en analyse, c'est l'ordre des choses, parce que l'inconscient s'est organisé de façon très chronologique. C'est-à-dire que toute personnalité donc, s'est élaborée et construite, en gros, de 0 à 5-6 ans maximum. Mais l'ordre est parfait, donc de la période intra-utérine jusqu'à ce que Freud donc, a nommé Œdipe. Donc, il faudrait impérativement que les professionnels, donc, notamment, je pense à tout le monde enseignant, puisse avoir accès à cet ordre-là. C'est difficile et on en est conscient en tant que psychanalyste. Alors, dans le même ordre d'idée, j'ai été renvoyée à un conte célèbre, un conte de Perrault célèbre, Le Petit Poucé. Et j'ai relu, je me suis intéressée donc à nouveau au texte. Et en relisant cette histoire, je me suis dit que Le Petit Poucé avait eu des parents vraiment très particuliers, particulièrement abandonniques, et si on resituait cette histoire dans le contexte sociologique actuel, eh bien voilà des gens qui auraient bien des comptes à rendre sans mauvais jeu de mots. Alors on voit ces parents qui, sous des prétextes plus ou moins fallacieux, certes il y a des difficultés familiales qui sont mises en avant, une mère qui se laisse quand même séduire, entre guillemets, par le père, donc qui vont s'évertuer à perdre leurs enfants dans la forêt. Non, il est vrai que dans une fratrie importante, il y a toujours un MacGyver et on va voir donc le petit pousset qui va s'évertuer à trouver des stratégies plus ou moins habiles pour essayer de récupérer donc le domicile familial. Puis jusqu'au moment où, par le plus grand des hasards, entre guillemets, eh bien, il va pénétrer dans la maison de l'ogre, celui-là même qui mange les petits-enfants. Et c'est par une stratégie de transfert de lit, en fait, que le petit poussé va sauver sa vie, va sauver bien sûr la vie de ses frères et sœurs, mais l'histoire nous racontera ensuite que l'ogre mangera, donc dévorera ses propres enfants. Donc là encore une fois, vous allez me dire, on a tous lu Babar, on a tous lu Le Petit Poucet, on n'est pas des serial killers en puissance, ou du moins arrivons-nous à maîtriser nos pulsions de mort, bien sûr. Mais encore une fois, tout va dépendre du moment où va intervenir la lecture de ce texte. Et d'ailleurs, il y avait eu il y a quelques années une polémique importante à la télévision, donc avec Dorothée qui s'était vue agressée de toutes parts, effectivement, par des sujets un petit peu difficiles qui étaient proposés, donc bien sûr en audiovisuel. Donc encore une fois, c'est cette chronologie qui va perturber l'inconscient abandonnique. Or, ni les parents, ni même les enseignants, bien sûr, en dehors de tout apprentissage professionnel, ne peuvent repérer véritablement ce qu'est un abandonnique. Alors je vais essayer donc rapidement, on manque de temps, mais je vais essayer donc de vous expliquer bien sûr comment s'élabore une personnalité abandonnique, mais vous verrez que nous avons eu tous droit à ces stades-là. Alors donc je vais revenir sur le terme fixation. De façon schématique, je ne vais pas vous donner de définition, hein, là n'est pas mon propos, puisque nous l'avons vu tout à l'heure, nous sommes tout à fait conscients qu'il y a dans le public des professionnels de la santé Il y a certainement des psychanalystes, il y a des psychologues, il y a des psychothérapeutes, il y a aussi des gens qui viennent en auditeur libre. Donc il nous est difficile de rentrer véritablement, non seulement dans une théorie très précise, et bien sûr encore plus dans une méthodologie. Mais je pense que vous êtes capable, bien sûr, de dégager de nos propos ce qui vous intéresse. Alors une fixation, donc de façon très basique, peut être soit un obstacle, soit une épreuve. Dans la mesure où le petit homme, toujours dans cette période de fragilisation, c'est-à-dire de 0 à 6 ans, bien sûr, est en interaction avec ses parents. Si les parents, pendant cette période-là, rencontrent des difficultés, et si ces mêmes parents présentent une maturité pulsionnelle suffisante pour gérer les obstacles, ce peut être le divorce, le chômage, la perte d'un enfant, la naissance d'un enfant handicapé, etc., etc. Donc si les parents ont une maturité pulsionnelle suffisante, l'enfant va pouvoir, a priori dans la vie, parce qu'il aura digéré bien sûr ses difficultés, va pouvoir s'en sortir de façon non abandonnique. On verra aussi que c'est plus complexe que ce que je dis là. Par contre, si les parents eux-mêmes ont une immaturité pulsionnelle, il est bien évident que l'enfant ne pourra pas digérer ses difficultés. Donc on va appeler cela une fixation. C'est-à-dire que mnésiquement parlant, l'inconscient va garder une trace indélébile à vie. Et l'inconscient va s'attacher à rechercher donc ses difficultés tout au long de l'existence. Parfois, c'est en même temps donc, que les difficultés rencontrées dans la famille à l'instant T, et très souvent, les médecins le savent, on va avoir des enfants lorsque les parents se séparent, ou encore une fois s'il y a perte d'un être cher, qui vont somatiser parfois de façon très résistante. Et puis donc dans l'existence, eh bien, sous des formes plus ou moins masquées, ce que disait aussi tout à l'heure Xavier, bien sûr, ce que l'on appelle des formations de compromis, eh bien l'inconscient va essayer de revivre ce que ses parents ont vécu. Pour deux raisons. La première, c'est qu'il faut savoir qu'un inconscient est très culpabilisé. C'est-à-dire qu'il se vit à la fois tout puissant, curieusement, vous verrez aussi tout à l'heure pourquoi. Donc effectivement, il y a du complexe du sauveur en lui, il y a de la toute-puissance. Et à la fois, donc, cette culpabilité va l'amener donc à fantasmer qu'il a engendré donc tous les désagréments donc inhérents à la famille. Donc cette culpabilité aidant, il va effectivement avoir un besoin de punition et surtout, il a un schéma parental donc réducteur dans le cadre de la personnalité abandonnique. Puisque, souvenons-nous, les parents n'ont pas été capacitaires, ce peut être fantasmé d'ailleurs aussi, mais les parents n'ont a priori pas été capacitaires à gérer donc la problématique qu'ils avaient eue, c'est-à-dire à la sublimer, à lui donner sens. Donc l'enfant ne va pas pouvoir dépasser de toute façon le propre point de fixation des parents. Donc il y a cette culpabilité qui est donc prise aussi, encore une fois, dans cette notion d'impuissance, puisqu'il y a, on va dire en analyse, une articulation manquante. On va retrouver donc ces notions de fixation donc, dans ce que l'on appelle la psychogenèse. Pour chacun de nous, l'histoire est en apparence la même, bien sûr, ça dépendra aussi de la famille, de la position individuelle de l'inconscient et de l'héritage transgénérationnel, mais donc très rapidement aussi une vie intra-utérine. On va parler de période anobjectale, dans la mesure où l'enfant donc est incapacitaire d'imaginer à ce moment-là l'extérieur. Et c'est pour cela donc que l'on appelle aussi cette période narcissisme primitif. Donc encore une fois, vous voyez où s'origine donc la toute-puissance, qui lui jouera plus de tours d'ailleurs que lui apportera davantage. La naissance arrive et l'inconscient présente cette particularité de fantasmer qu'il perd une partie de lui-même Et toute la vie, l'individu va chercher donc à reconstituer ce qu'il croyait être une intégrité, mais toujours dans le but, là par contre, de retrouver donc une certaine efficacité. Et pendant la période intra-utérine, il y a aussi bien sûr une particularité, puisque l'être humain quand même a une angoisse de mort terrifiante, c'est qu'il a un petit peu le beurre et l'argent du beurre. Donc il fantasme à tort vivre. Sans prendre le risque de mourir, ce qui est faux, bien sûr, selon un principe de réalité. Donc, on voit que de cet état de contenu relativement paradisiaque, eh bien, l'inconscient donc va ressentir une espèce de brutalité donc face déjà à cette première prise de conscience de l'extériorité, même s'il va chercher à la nier.